Le journal de la rédaction de Radio 1 et Pierre FM, on parle de cette enquête ouverte au ministre des Sports. On s'intéresse à l'impact carbone du tourisme et à un projet d'édifice religieux. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence ce journal par cette info justice.
Le parquet de Papeete annonçait avoir ouvert une enquête sur l'emploi de Christian Wang Sang, ce qui confirme une information de Tahiti Info. Une enquête qui porte sur des soupçons de détournement de fonds. Alors d'après les informations du quotidien, Christian Wang Sang avait continué à percevoir une rémunération de chef de cabinet pendant plusieurs mois après avoir quitté le poste et être devenu chargé de mission de la cellule Tuaronui. L'enquête va donc chercher à clarifier la situation du beau-fils du président Brotherson, dont la déconnexion entre la fiche de paie et le poste réellement occupé pourrait rentrer dans la définition d'un emploi fictif. Une qualification abusive, c'est ce qu'avait répondu sur notre plateau Moët et Brotherson. Le président du pays avait affirmé que Christian Wang Sang touchait bien un salaire de conseiller technique, peut-être après régularisation. Du travail de vérification donc pour les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie.
On vous donne un chiffre, 860.
860 kilos d'équivalent CO2, c'est l'estimation de l'impact carbone d'un séjour touristique au Fénois. Une estimation qui n'avait jamais été faite auparavant et qui est désormais sur la table grâce à une étude commandée sous l'ancienne mandature par le gouvernement. Étude qui chiffre à 15% la part du secteur touristique dans les émissions territoriales totales de la Polynésie. Pas tant que ça, pourrait-on dire, mais ce chiffre mis en avant par les autorités oublie un détail, le poids des transports internationaux, Charlie René.
Oui, ce serait dommage de les oublier parce que ces vols et ces bateaux, ceux qui servent aux voyageurs à rallier le Fénois, représentent pas moins de 70% du total des émissions touristiques. Ainsi, ce ne sont pas 860 kilos, mais plus de 6 tonnes de CO2 qui sont émis par chaque touriste pendant leur séjour. Les auteurs de l'étude ont en fait rendu deux documents avec et sans ces transports internationaux, et la différence est énorme. Le secteur pèse 322 000 tonnes de CO2 chaque année en local, mais le chiffre grimpe à 1,7 million de tonnes avec ses allers-retours vers l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. L'empreinte carbone territoriale de toute la Polynésie, c'est 1,2 million de tonnes peu ou prou et ça fait un peu plus de 10 tonnes par habitant. En clair, Valdemar, un touriste émet plus de gaz à effet de serre en un seul séjour en Polynésie qu'un résident en 7 mois de vie locale.
Alors si les autorités se concentrent sur le chiffre hors transport international, c'est qu'il y a une raison. Le but de l'étude, c'est de trouver des leviers d'action pour réduire l'empreinte carbone sur le tourisme. Et le fait est que les autorités n'ont que peu de leviers en ce qui concerne les vols internationaux. Elles pourraient en revanche être intéressées par le bilan de chaque type d'hébergement, des bilans qui sont très variables. 53 kilos de carbone par nuitée dans des hôtels ou des pensions, 107 kilos par nuit à bord d'une croisière interrail et jusqu'à 135 pour les excursionnistes. Et cette étude qui est disponible sur le site du service du tourisme ne se limite pas à des constats, elle fournit aussi la réflexion sur l'avenir.
Sur l'avenir et sur les objectifs touristiques qui ont beaucoup évolué ces derniers temps, les 280 000 touristes visés sous la mandature d'Edouard Fritsch, un par habitant, ferait grimper de 13% l'empreinte carbone du secteur. En revanche, si le cap est celui qui a été fixé par Moët et Brotherson, soit 600 000 touristes à moyen terme, la note s'alourdira de plus de 70%. L'autre enseignement de l'étude, c'est qu'il faudra composer avec les objectifs climatiques internationaux. L'accord de Paris, par exemple, fait mention d'un maximum de 2 tonnes d'émissions par habitant et par an d'ici 2050. C'est 3 fois moins qu'un seul petit séjour en Polynésie, Valdemar.
Merci Charlie René. Toutes les informations sur cette étude sont bien sûr à retrouver sur notre site radio1.pf.
Au rayon énergie, on relaye ce nouvel appel à projet.
Oui, il concerne le fonds Macron, un dispositif qui a déjà permis de subventionner 8 projets en 2023. Des projets sélectionnés avec le pays qui contribuent à la transition énergétique. Au total, 1,2 milliard de francs avaient été alloués. On peut notamment citer des projets de centrales hybrides ou solaires. Alors il reste un peu moins de 6 milliards à allouer d'ici 2023. Et le Haut-Saria a donc relancé un appel à candidature. Les dossiers non retenus lors du premier appel peuvent être redéposés. A noter toutefois que le taux de subvention dépend du type d'opération, ça va de 25 à 60%. La date limite du dépôt des dossiers finalisés est fixée au 31 juillet, les détails sur notre site.
Et dans les îles, un temple mormon est en projet à Raiatea.
Oui, c'est l'annonce faite hier par celui que les fidèles nomment le président Nelson. Il est le dirigeant mondial de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est au terme de la première des deux conférences générales organisées chaque année au Temple Square à Salt Lake City que le prophète a cité Uturoa parmi les 15 villes qui verront naître un temple. Ce temple sera le deuxième au Fénois après celui de Titioro qui a été construit il y a 30 ans. Et ce nouveau lieu, il devrait desservir les 14 paroisses des Raromatei dont 6 sont situées à Raiatea même. Elle rassemble au total, selon les dirigeants locaux, 4000 membres. Écoutez les précisions d'Elder Rimmer Frédéric, le responsable de l'église au Fénois qui a participé à la conférence aux États-Unis. Il répondait à Vaitiare Pereire.
Pour beaucoup, c'était une surprise. on a travaillé dessus pendant 2 ans. L'Église essaie de voir où l'Église grandit et ensuite c'est le prophète qui décide ensuite par révélation où le Seigneur veut qu'on puisse établir un autre temple. C'est pour permettre justement de rapprocher le temple des membres.
Voilà, cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'émotion par les croyants du Fénois qui seraient près de 30 000. Sur les réseaux sociaux, certains disent même avoir pleuré de joie. À l'heure actuelle, les dirigeants ont visité plusieurs terrains, mais le projet final n'a pas encore été révélé.
Ce sera un temple unique en son genre, bien sûr. Ce ne sera pas un grand temple comme aux États-Unis, mais déjà le temple de Tahiti, ben, ça nous donne un peu une petite idée un peu du temple que les membres de Bora Bora et de Reatea ou Reineta pourront bénéficier. On n'a pas encore c'est à l'état brut, mais voilà, ça va se faire dans les années à venir. C'est pas demain qu'on va commencer la construction.
Voilà, selon Elder Rimer Frédéric, le projet pourrait voir le jour d'ici 4 à 5 ans.
Du sport maintenant, le Festival des Îles s'est achevé.
Oui, une semaine de compétition de football et de futsal pour 1000 joueurs et joueuses venus des différents archipels. Avec les succès finaux de l'AS Manoura chez les garçons et Nuku Hiva chez les filles en football et de Punaouya et des Vahine de Papeete en futsal. Le tout dans une ambiance électrique qui a motivé la ministre des Sports, Nahima Temari, à demander à la fédération de s'investir davantage dans la discipline futsal.
Quand on va au-delà de Tahiti et de Moorea, on se retrouve en difficulté pour implanter des terrains de football. Alors qu'en fait, le futsal, on peut y jouer partout. Et Rapa, c'est effectivement donc le meilleur exemple. Pendant des années, Rapa a fonctionné sans salle omnisport et pourtant a toujours fait partie de l'élite du futsal. Je le vois au quotidien, les associations m'en parlent, que ce soit de jeunesse ou de sport. Et donc l'idée, c'est tout simplement de demander à la Fédération Tahitienne de football de relancer le championnat de futsal à Tahiti et dans les îles, en attendant que chaque année, le Festival des Îles viennent clôturer en fait la saison.
Et la ministre garantit surtout aux dirigeants de la fédération que le gouvernement les soutiendra dans cette redynamisation du football. A noter que Nahima Temari a aussi profité de son passage à la tribune du Stade Fatawa pour faire applaudir son père, Reynald Temari, autre fondateur de ce festival né en 2008 et qui serait selon elle systématiquement oublié des discours officiels.
Et puis un tournoi international de tennis débute ce lundi.
Il s'agit du East Pacific Regional Championship. Ça se passe sur les terrains de Feipi, d'Excelsior et de Napoléon Spitz avec près de 120 joueurs juniors de 10 à 16 ans, dont 19 viennent de Tahiti. Leurs adversaires arrivent de Cook, de Samoa, des Tonga et des Samoa américaines. C'est un tournoi qui permet de se qualifier aux Oceania Juniors. Ils sont prévus cette année à Fidji. Et les Tahitiens font figure de favoris, comme le rappelle Vaite Alo, cadre technique de la Fédération Tahitienne.
On a gagné 7 années d'affilée comme étant la première nation des East et 6 fois première nation du Pacifique en entier. Donc oui, on est attendu au tournant par les autres nations, mais même si on est à domicile, Samoa est arrivé en force avec 22 enfants. Nous avons privilégié plus la qualité, donc on a mis 19, on aurait pu en mettre plus. Mais l'idée de ce tournoi, c'est pas de mettre non plus n'importe qui. On fait une sélection au championnat et on met les meilleurs.
Voilà, cette East Pacific Regional Championship dont les matchs débutent donc aujourd'hui pour s'achever en fin de semaine à Fatawa. C'est aussi une première occasion pour la Fédération Tahitienne de tennis de préparer l'événement le plus important de ces prochaines années. Vous l'avez compris, ce sont bien sûr les Jeux du Pacifique à domicile Tahiti 2027.
L'année dernière, on a fait une grande manifestation, c'était une première pour le bureau de Ruth. Cette année, on s'attaque à une petite organisation, même s'il y a beaucoup d'enfants, une petite organisation qui est les East. La prochaine étape, c'est à accueillir une autre compétition qui s'appelle la Nations Cup avec les 16 nations et après les Jeux en 2027.
Voilà, la fédération qui invite les amateurs ou les curieux à assister gratuitement au match. Tout le programme sur la page Facebook de la FTT.
Et on reste dans les sports de raquettes puisque Léa Godalier était notre invitée ce matin.
Oui, Léa Godalier, championne de paddle. Elle est en visite au Fénois 4 ans et demi après son retour à Tahiti, d'où elle était partie à l'âge de 2 mois pour être adoptée en métropole. Triple championne de France mais aussi championne d'Europe, Léa Godalier va notamment donner des stages aux joueurs de l'AS Phoenix qui compte 5 terrains bientôt 9 pour pratiquer cette discipline en plein boom au Fénois. Un sport que l'on peut comparer à un mélange entre le squash et le tennis, écoutez.
C'est vachement accessible en fait, c'est un sport qui plaît de suite parce qu'il y a des échanges directement, ça se joue en équipe, donc à 2 contre 2 sur un petit terrain de tennis entouré de grillages et de vitres, et voilà. Et moi et ma famille, on a de suite accroché avec cette discipline-là, donc ça ne m'étonne pas du tout que ça fasse un énorme boom ici aussi.
Et Léa Godalier est actuellement 2e joueuse française au classement national et pourtant elle n'a réellement débuté le padel qu'il y a 6 ans après une quinzaine d'années à jouer au tennis, écoutez.
J'ai joué pendant longtemps au tennis, je dirais une quinzaine d'années. Et sur ma dernière année de tennis, j'ai découvert le paddle. Je suis de suite tombée dedans. J'ai eu la chance en fait de tomber sur un entraîneur espagnol qui était là pour ses études sur Bordeaux, où moi je faisais aussi mes études, et Rolre de Benito, qui m'a appris toutes les bases de paddle. Et ça a été génial, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais vas-y, feu, il faut y aller. J'ai direct commencé par un tournoi que j'ai gagné contre des filles qui faisaient partie de l'équipe de France à cette époque-là. Et c'est ce qui m'a fait un déclic. Je me suis dit, bon, je me suis jamais vraiment entraînée et je bats des filles qui sont en équipe de France, donc pourquoi pas tenter l'aventure.
Voilà, Léa Godalier qui a donc fait du chemin depuis ses débuts dans la discipline. Sur les terrains, bien sûr, avec son palmarès, on l'a dit, mais aussi du côté de sa vie personnelle, puisqu'elle vient d'accueillir son premier enfant il y a seulement 2 mois, ce qui ne l'empêche pas d'être déjà motivée à faire son retour sur les plus grandes compétitions internationales. En attendant, elle est donc au Fénois jusqu'au 18 avril. Vous pourrez retrouver son programme sur notre site. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un petit rappel avant de nous quitter, si vous l'avez manqué juste avant ce journal, le PDG d'ATN, Michel Monvoisin, était l'invité de la d'action. Une interview à retrouver en intégralité et en vidéo, bien sûr, sur notre page Facebook.
Merci Valdemar, on passe à la météo.